Et cette semaine, dans les conversations avec Daniel Habert, eh bien, on revient sur les nombreuses négociations qui se tiennent en ce moment sur différents fronts et la position qu'Israël peut adopter face à ces mêmes négociations. Daniel Habert en parle et répond aux questions, comme d'habitude, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka, comme tous les lundis pour nos conversations. Alors Daniel, en ce moment, il y a énormément de négociations mondiales qui concernent évidemment Israël. On parle évidemment du conflit de la guerre à Gaza, on parle des droits de douane imposés par Donald Trump. Il y a les négociations autour de la guerre en Ukraine avec Vladimir Poutine et les négociations sur le nucléaire avec l'Iran. Depuis quelques semaines dans nos conversations, on essaie de comprendre la vision israélienne dans ces négociations. Alors qu'on sort de Yom HaAtzmaout et de Yom HaZikaron, quel bilan pouvons-nous faire?
Le premier bilan, c'est que cette guerre d'indépendance qu'on célèbre, celle de 48, en fait, elle n'a jamais cessé et que on peut dire que la séquence qui vient de s'écouler, les 18 mois de guerre, c'était à nouveau sorte de guerre d'indépendance, tant il est vrai qu'Israël doit, depuis qu'il existe, se battre pour sa survie, pour son existence, se battre aussi pour sa prospérité, et que si on fait le bilan aujourd'hui pour Israël, il y a quand même une sorte de paradoxe, c'est que Israël a gagné au fond toutes les batailles qu'elle a menées contre les sept fronts, on l'a rappelé à plusieurs reprises, mais que d'ailleurs je rappelle qu'on continue à appeler les événements actuels la guerre de Gaza, et alors que je propose moi de dire que c'est la guerre de l'Iran, avec quelques théâtres d'opérations plus difficiles que d'autres, et c'est vrai que Gaza est plus lourd, mais vous savez ce qui s'est passé au nord, au Liban avec le Hezbollah était tout aussi crucial, voire encore plus, du point de vue d'Israël. Donc, si vous voulez, ce paradoxe, c'est que Israël au fond a gagné toutes ses batailles, mais qu'on peut pas dire qu'elle ait gagné encore la guerre, et on va y revenir. Et puis, la deuxième raison pour laquelle elle est dans une situation pas facile, c'est que même si Trump donne tous les signes d'une proximité avec Israël et d'un désir très fort de permettre à Israël de résoudre tous les problèmes, on voit bien que il a plein de priorités et que ses visions et que ses urgences ne sont pas tout à fait celles d'Israël. Et donc, le monde est dans l'incertitude, mais Israël est en première ligne de cette incertitude. Voilà un petit peu le premier sentiment qu'on peut avoir.
Alors, justement, hein, cette situation, pourquoi, selon vous, elle semble difficile pour l'État hébreu?
Bon, d'abord, il faut remarquer, tous ceux de nos auditeurs qui ont de la famille ou des amis en Israël le savent, les Israéliens sont fatigués. Ils sont fatigués, le peuple est fatigué, leurs enfants et leurs petits-enfants qui sont soldats et qui sont réservistes sont fatigués. Et donc cette fatigue à la fois physique et psychique pèse évidemment sur tout ça. Mais les trois raisons majeures qui font que, comme que c'est la question que vous posez, c'est toujours difficile. La première, c'est que même si Israël a gagné toutes ses batailles, elle continue d'être finalement en guerre. Et la guerre qu'elle mène aujourd'hui à Gaza, mais aussi au nord, au Liban, tous les jours, il y a des actions, il y a des actions en Syrie, il y a des actions en Judée-Samarie, je vais les reprendre. Tout ça montre qu'Israël est toujours en action, en activité de guerre, et que moi j'ai appelé ça à plusieurs reprises une guerre d'usure, et c'est comme ça que c'est vécu par les Israéliens. C'est une guerre de basse intensité, mais et qui risque de durer. Et c'est ça qui tout d'un coup nous amène à la deuxième conclusion pour laquelle c'est difficile. Je pense qu'Israël est en train de prendre conscience qu'il y a une sorte de scénario caché de l'ensemble des ennemis d'Israël, et je vais revenir, qui fait que on peut pas vaincre Israël directement, il est trop fort, mais on peut l'user, hein, et que cette guerre d'usure, au fond, c'est une stratégie. C'est une stratégie qui est une guerre sur tous les fronts, à la fois militaire, mais aussi diplomatique et aussi de communication. Et c'est tout ça qui donne cette troisième conclusion, c'est qu'on a un contexte global qui est lourd et qui génère de mauvaises ondes en Israël. Et je voudrais quand même rappeler que Israël continue à mener des opérations très lourdes à Gaza et que c'est pas fini, que ça risque de encore s'aggraver. Parce que le Hamas conserve, grâce aux otages, une capacité de chantage, mais on voit bien que l'objectif du Hamas, c'est de rester à la fois une force militaire et se reconstitue, une force administrative. Le Hamas continue de gérer Gaza. Et ce qui empêche l'aide humanitaire d'arriver, vous avez certainement dû en parler à plusieurs reprises sur vos ondes, et surtout veut rester un acteur politique pour l'avenir. Or, tant que le Hamas restera un acteur politique sur la scène diplomatique du Moyen-Orient, rien ne pourra se faire. Le Hezbollah continue de tricher, et donc heureusement qu'Israël est vigilant. Les Houthis continuent de bloquer la mer Rouge. Alors c'est triste pour nos amis égyptiens, mais c'est triste aussi pour Eilat, hein. Le port d'Eilat est sinistré. La Syrie, on voit bien que le gouvernement, si on ose le nommer comme ça, qui est en place, les djihadistes en place, ne contrôlent pas la Syrie, qu'on est en plein massacre des minorités, donc un comportement islamiste extrêmement dangereux, et Israël est obligé de faire le ménage et de protéger toutes ces minorités alouites, chrétiennes, druzes, kurdes, et ça oblige Israël à intervenir beaucoup. Je rappelle toujours qu'en Judée-Samarie, les milices palestiniennes préparent sans arrêt des attentats et qu'Israël est sur le pont 24 heures sur 24. Quant à l'Iran, contrairement à ce qu'on pense, il continue à tranquillement poursuivre son programme nucléaire, son programme de missiles, et à armer tous ces boucliers qui continuent à se battre pour lui. Et puis par-dessus tout ça, vous avez ce vaste mouvement islamiste mondial, dirigé, on le sait, de plus en plus par les frères musulmans, qui utilisent l'arme qu'ils savent utiliser, qui est l'arme de la communication, de la désinformation, des fake news. Les journaux sont pleins d'agressions verbales vis-à-vis d'Israël. Il y a encore des procédures en cours dans les cours de justice. Donc on voit bien que c'est lourd pour Israël, et que même en Occident, vous avez toujours les médias, les jeunes et un certain nombre d'intellectuels, y compris d'intellectuels juifs, qui génèrent des ondes négatives pour Israël. Donc si vous faites le bilan de tout ça, vous voyez que c'est pas facile pour Israël.
Justement, Israël peut-il s'en sortir, peut-être avec l'aide du président américain Donald Trump?
Oui, non, mais c'est vrai qu'Israël a des raisons d'espérer que Trump va l'aider, mais on voit bien que pour Trump, Israël, enfin le Moyen-Orient, c'est une de ses priorités parmi d'autres. Il y a l'Amérique d'abord, et puis il y a la Chine, et puis il y a Poutine qu'on veut détacher de la Chine. Donc le Moyen-Orient, c'est pas la priorité des priorités. On peut craindre que Israël, que je veux dire que Trump n'aille pas jusqu'au bout de l'aide qu'il pourrait porter. Je voudrais juste terminer pour dire que au fond, toute la négociation que Israël mène aujourd'hui avec Trump sur l'Iran, c'est de rappeler que un mauvais accord du type Obama, parce que c'est ça qui est en train que beaucoup de commentateurs mettent en avant, serait un désastre pour Trump, puisqu'il était sorti de l'accord d'Obama en disant c'est le pire accord, il peut pas signer le même. Et donc l'utilisation de la force vis-à-vis de l'Iran est quand même une option qu'on peut pas négliger. Elle est sur la table, et ça suffit pas de montrer sa force, il faut aussi montrer sa détermination à l'utiliser. Et je voudrais résumer les arguments qu'Israël porte devant Trump pour lui dire il faut régler l'affaire iranienne de façon beaucoup plus définitive que ce qu'on entend. La première, c'est que c'est nous Israéliens qui ferons le travail. Donc, vous n'êtes pas en première ligne. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nous aider sur le plan d'information et un certain nombre de supports logistiques. Le deuxième, c'est que si vous ne réussissez pas votre coup avec l'Iran, si vous ne mettez pas fin à la menace iranienne, vous ouvrez le champ à l'Iran. Pardon, à la Chine, qui est votre principal objectif, parce que la Chine se rapproche de l'Iran, achète tout son pétrole et donc profitera de toutes les mauvaises négociations que vous menerez. Surtout, si vous ne menez pas une négociation décisive avec l'Iran, vous ne pourrez pas avancer avec l'Arabie Saoudite, qui est la clé de l'avenir du Moyen-Orient. Et vous ne pourrez pas non plus avancer avec la Turquie, qui on entend moins parler de la Turquie que de l'Arabie Saoudite ou de l'Iran, mais c'est un troisième joueur extrêmement important. Et de toute façon, si vous ne pouvez pas régler définitivement toutes ces négociations avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite et la Turquie, il n'y a aucune chance de résoudre la question palestinienne d'une façon ou d'une autre. Et donc, vous serez ramené toujours à cet état de guerre d'usure qui vous hante. Donc voilà un petit peu tous les arguments qui seraient là devant Trump. Et donc Trump qui reste le centre de la diplomatie et de la géopolitique mondiale, avec tous les défauts qu'on lui connaît, et donc toute l'inquiétude qu'on peut avoir face à un tel homme.
Daniel Habert, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour ces conversations, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.